Allô Radio Lac, on parle santé.
Droit à bien-être, animaux, jardinage, chaque jour un thème différent auquel vous pouvez apporter vos questions de 16h à 17h. Aujourd'hui nous parlons de santé, comme chaque jeudi. Bonjour Mickaël.
Bonjour David.
Mickaël Balavoine, rédacteur en chef de Planète Santé, avec un sujet pour le moins original, surprenant. Cette semaine, notre espérance de vie serait-elle cachée dans notre code postal? Je m'explique. Être en bonne santé ne dépend donc pas que des aspects physiques ou mentaux, mais également de notre niveau socio-économique et du lieu où nous habitons. C'est dans ce dont nous allons parler aujourd'hui avec le professeur Idriss Guessous. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes donc responsable du service de médecine de premier recours des HUG. Non, vous êtes au service de médecine de premier recours des HUG.
Voilà. Exactement.
Voilà, excusez-moi, je vous ai déjà donné une promotion avant l'heure. Et puis, nous avons également avec nous Stéphane Jost. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, quant à vous, géographe à l'EPFL.
C'est correct.
Alors, Mickaël, expliquez-nous, comment est-ce qu'on peut synthétiser tout ça en quelques mots?
Eh bien, en fait, David, ce que vous avez dit est déjà très complet. On sait depuis longtemps que les gradients sociaux et le niveau de vie déterminent la santé dans laquelle on se trouve. Et ce que nos deux chercheurs qui sont ici aujourd'hui ont trouvé, c'est que ces niveaux socio-économiques n'étaient pas assez précis pour déterminer exactement les inégalités sociales dans les différents quartiers. Et donc c'est dans ça qu'on va parler avec eux, et peut-être pour commencer quand même parler de cette histoire sociale de la santé avec vous, professeur Guessous. Comment est-ce qu'on peut dire que l'endroit ou le revenu socio-économique influence notre santé?
En fait, déjà, ça a pris du temps pour réaliser qu'il y avait des inégalités de santé en Suisse, parce que le système de santé à la réputation en Suisse d'être excellent. On a des excellents soins quand c'est des soins d'urgence. On est réputé pour ça. Donc ça a pris du temps de se dire, est-ce que tout le monde bénéficie de cette qualité des soins? Et tout bêtement, les dernières années, on a commencé à regarder l'état de santé, même des Genevois, par exemple, via l'étude BuSanté, en fonction du revenu. Des questions assez triviales, en fait, et on voit effectivement qu'il y a une relation entre le revenu et puis l'état de santé. Entre l'éducation, simplement, si vous comptez le nombre d'années d'éducation d'une personne et son état de santé, moins il y a d'années d'éducation, moins il y a de revenus, plus il y a de facteurs de risque de santé et de maladie. On parle du tabagisme, d'obésité, du risque de diabète, par exemple.
Est-ce qu'il n'y a que le revenu socio-économique qui compte? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects qui déterminent cette santé?
Alors justement, le premier facteur, presque plus que le revenu, c'est l'éducation. On voit ce qui ressort constamment, c'est l'éducation. Et parce que la Suisse a un niveau global d'éducation qui est élevé, on voit que l'état de santé des Suisses est bon et l'espérance de vie très longue, parce que le niveau d'éducation est bon. Mais ce que nous développons maintenant, notamment avec Stéphane Jost, c'est d'autres facteurs plus fins que simplement l'éducation ou le revenu, aller au-delà de ces facteurs.
Donc ça veut dire que quand vous parlez d'éducation, c'est les niveaux simplement universitaires, ou c'est ça?
Exactement. Simplement en comptant le nombre d'années d'études que vous avez réalisées. Chacun peut s'asseoir un moment et compter le nombre d'études. Alors c'est vrai que pour certains, ça sera la scolarité obligatoire, en plus quelques années après de gymnase, par exemple, de maturité. Et puis on classe typiquement le plus haut niveau d'éducation, ce qui serait l'universitaire. Mmh. Et simplement, cette indication vous donne le nombre d'années, la capacité ou ce qu'a reçu la personne comme information par rapport à sa santé et comment la préserver.
Et donc, ce que vous nous expliquez là, c'est que ces gradients, au fond, ne sont pas suffisants. Peut-être, Stéphane Jost, vous êtes géographe, et pour vous, donc, ces niveaux qu'on calculait jusqu'à maintenant, de revenus, d'éducation, ne sont pas suffisants pour déterminer cette qualité de santé, en fait, des gens. C'est juste?
Alors, en fait, ce qui change, c'est qu'on va mesurer les mêmes choses. C'est les mêmes variables qui sont les variables d'intérêt, le revenu, le niveau d'éducation. Mais ce qui va changer de manière très significative, c'est l'échelle en fait géographique à laquelle on va aborder le problème. Et l'échelle à laquelle on va mesurer ces mêmes variables. Donc on va les regarder de plus près, si on veut. On va les regarder plus en détail. Vous parliez dans l'introduction de numéro postal, hein. Est-ce que notre numéro postal en fait influence notre espérance de vie? C'est le numéro postal, c'est encore quelque chose de très large, de très vague. Ça représente une surface assez importante. Nous, on a proposé, on a commencé à calculer les choses au niveau de l'individu. Dès le moment où les données sont disponibles, on arrive à travailler au niveau de l'adresse des individus pour faire des calculs, pour agréger ces différentes données et regarder la façon dont les comportements globaux s'agencent sur le territoire.
Alors messieurs, une réaction nous est parvenue sur le WhatsApp de Radio Lac 079-918-3000, celle de Jean-Michel de Choulet. Bonjour, est-ce que les Suisses ont la deuxième espérance de vie la plus longue au monde parce que c'est un pays riche ou parce que le système de santé est efficace?
Je dirais qu'ils ont même... Ils sont premiers, hein. On a dépassé le Japon, en l'occurrence, dans les dernières données. C'est difficile d'être définitif dans cette réponse. On sait par contre que le niveau d'éducation globale, effectivement, est un facteur majeur dans la longévité d'une population et la faiblesse des inégalités sociales. Et puis ça, vous savez, plusieurs auteurs ont décrit ça. Plus vous avez d'inégalités sociales dans un pays... plus vous avez des personnes qui vont décéder précocement et donc tirer vers le bas l'espérance de vie d'une population. Or, la Suisse a un gradient d'inégalité sociale qui est très faible. Mais ça ne nous empêche pas, Stéphane, Yost et moi-même, d'aller étudier ces inégalités en Suisse, même si elles sont peut-être plus faibles qu'en France ou qu'en Amérique du Nord. Elles existent en Suisse.
Mais ce qu'on peut peut-être ajouter à ce propos, c'est que si on regarde les informations... La population suisse est assez restreinte, hein, c'est 8 millions d'habitants, le territoire est assez petit, et ce sont des informations, des points communs entre les quatre premiers pays de ce classement d'espérance de vie. Si on regarde le Japon, Singapour, la Suisse, si on s'intéresse plus exactement à l'espérance de vie en bonne santé, ce qui est quelque chose d'un peu différent. Il y a aussi la Corée du Sud qui apparaît dans ce classement. Donc il y a des points communs entre ces différents pays si on considère l'accessibilité aux soins. En ce qui concerne une population pas très forte et concentrée sur un petit territoire.
Merci beaucoup messieurs, vous l'aurez constaté, nous sommes en pleine zone de travaux. Mais cette émission se poursuit dans avec la complicité des journalistes scientifiques de Planète Santé, chaque jeudi, on s'intéresse à notre bien le plus précieux, la santé, un bien influencé, nous le voyons aujourd'hui, en positif ou en négatif par notre position socio-économique. Michael Balavoine, rédacteur en chef de Planète Santé, est avec nous. Également en studio, le professeur Idriss Kessous du service de médecine de premier recours des HUG et le géographe Stéphane Yost de l'EPFL. Michael, de quoi parlons-nous à présent ?
Eh bien, en fait, on va prendre un exemple concret qui explicite vraiment comment ces nouvelles mesures nous donnent des informations plus précises sur le niveau de santé de la population. Donc, professeur Guessous, vous avez étudié à la fois à Lausanne et à Genève le surpoids dans la population. D'abord, peut-être, vous pouvez expliquer ce que c'est que le surpoids et comment il est réparti géographiquement, au fond, dans ces deux villes ou peut-être à Genève.
Alors, le surpoids, en fait, c'est pas un style, c'est pas un trait, c'est pas une attitude. C'est ce qu'on appelle un proxy, un facteur qui va vous mettre à plus haut risque de diabète, d'hypertension, d'infarctus du cœur et donc de mortalité. Donc, le surpoids, l'obésité, il faut vraiment qu'on réalise que c'est un facteur de risque de maladie. Et la première approche, c'était, comme on en discutait, de croiser le taux de surpoids dans une population d'obésité avec le revenu. C'est ce que nous avons fait dans une première étape. Et là, très clairement, à Genève et à Lausanne, on voyait une relation. Donc les gens qui gagnaient moins avaient plus souvent, plus fréquemment, du surpoids ou étaient obèses. Ça, c'était la première approche. Et puis, Genève, le canton, Lausanne, la ville, les deux sont organisés socio-économiquement. Vous avez la rive droite, la rive gauche à Genève, à Lausanne, vous avez l'Est et l'Ouest. Et donc si le canton, la ville est organisé socio-économiquement et que socio-économiquement il y a une relation avec l'obésité, on peut se dire géographiquement, il doit y avoir une répartition spatiale, une répartition spéciale de l'obésité dans le canton ou dans la ville.
Et en fait, donc c'est ça, Stéphanios, que vous avez pu montrer, c'est-à-dire que cette répartition-là, elle est en fait beaucoup plus fine si on regarde très précisément les endroits, en fait.
Oui, alors ce qu'on a fait, c'est d'utiliser la localisation, le lieu de résidence des participants à ces cohortes, mais ensuite on a appliqué des méthodes statistiques spécifiques. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est un comportement collectif qui va être de manière clairement, significativement différente du hasard. Et ça va nous permettre d'étudier ou de mesurer si, en l'occurrence, un indice de masse corporelle d'un individu est plus ou moins similaire à celui de ses voisins. Et ces regroupements sur le territoire, on va pouvoir les observer. Et c'est ce qui nous a permis de mettre en évidence cette structure, soit à Genève, rive gauche, rive droite, soit à Lausanne, est-ouest, et qui nous permet de clairement identifier les zones où on arrive à mettre en évidence des problèmes particuliers de santé.
Vos réactions dans Allo Radio Lac, vous pouvez nous les faire parvenir sur le WhatsApp 079 918 3000. Nicole se permet de réagir. Elle nous dit bonjour. Est-ce que le fait de savoir dans quel endroit les gens sont le moins bien en santé ne va pas finalement nous porter préjudice?
C'est une très bonne question. Et souvent dans nos travaux, certaines catégories de professionnels peuvent parler de stigmatisation. Nous, on préfère parler de précision et de dire que s'il y a un acteur à stigmatiser, c'est plutôt notre organisation, plutôt notre politique de santé, qui fait que collectivement, il y a des comportements de santé qui mènent à l'obésité, à l'inactivité physique. Et typiquement, nos travaux montrent qu'il ne peut pas y avoir une responsabilité uniquement individuelle. Quand vous avez des clusters, ce qu'on appelle des foyers ou des régions où il y a des comportements partagés, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes, des organisations qui vont vous pousser à avoir ces comportements. Donc, un, les données sont sécurisées. Deux, avec Stéphanios et le groupe Giraffe, nous nous efforçons de systématiquement contrôler les cartes que nous partageons. Et donc, il n'y a pas de risque d'être identifié dans nos travaux.
Stéphanios?
Oui, juste un petit complément. C'est-à-dire qu'au niveau des méthodes que nous appliquons, la localisation précise des participants, des habitants, on l'utilise pour faire des calculs. Ensuite, on va restituer des résultats sous forme graphique, via les cartes, via la cartographie. Mais il n'est alors absolument plus possible d'identifier des habitations et par la force des choses, des habitants qui vivent dans les maisons en question.
C'est totalement anonymisé au final.
Alors c'est totalement anonymisé, mais ensuite c'est absolument anonyme sur le territoire également.
L'environnement social, l'influence de notre santé. Toujours en partenariat avec Planète Santé, comme chaque jeudi, Mickaël Bellavoine, rédacteur en chef, est avec nous. Également en studio, le professeur Idriss Kessous du service de médecine de premier recours des HUG et le géographe Stéphane Yost de l'EPFL pour parler effectivement de la manière avec laquelle notre lieu d'habitation, ajouté à d'autres éléments extérieurs, influence notre santé. Alors Mickaël, il y a des outils, des nouveaux outils de mesure de notre santé.
Oui, c'est exact, David. En fait, on n'a plus seulement les revenus, les déterminants classiques comme le revenu ou la position sociale pour déterminer le gradient de santé dans lequel se trouve une population. On a d'autres outils. Et justement, Stéphanios, vous qui êtes géographe, quelles sont ces mesures que vous faites chez l'individu et comment vous les mesurez pour qu'on puisse arriver à un déterminant plus ciblé de la santé d'un individu?
Alors, il y a deux niveaux d'information. Il y a toute l'information qui concerne directement la santé, et puis je pense que Idriss en parlera dans un moment. Et puis, nous travaillons ensemble, justement, un médecin et un géographe, pour mettre en commun nos compétences. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur le plan environnemental pour capturer, en fait, toute la variation, tous les facteurs qui composent notre environnement direct, et effectuer des mesures qui seront ensuite utiles lorsqu'on va comparer ces données-là avec des données de santé.
Alors, quels sont si on les prend très concrètement, qu'est-ce que vous observez?
Alors, ce qu'on observe, un avantage principal de la position que j'occupe maintenant, c'est que je suis géographe, effectivement, mais dans une école qui forme des ingénieurs, je travaille en ingénierie de l'environnement. Et c'est un environnement, justement, dans lequel on développe beaucoup de capteurs, où on utilise des capteurs, et on va pouvoir mesurer ce qui se passe dans l'environnement. Typiquement, à un niveau simple, mais qui est extrêmement important pour façonner l'environnement de vie des citoyens, c'est le bruit, par exemple. Alors, on va pouvoir localiser précisément des capteurs qui vont nous permettre de mesurer ce bruit. On va aussi pouvoir mesurer la pollution, atmosphérique. On a un cas récent, justement, un collègue à l'Institut d'ingénierie environnementale, le professeur Martin Holl, qui a placé sur les bus lausannois des capteurs de pollution pendant une longue période, ce qui a permis d'enregistrer la qualité de l'atmosphère et de caractériser l'atmosphère lausannoise comme... avec justement des outils et des informations qui étaient jusque-là totalement inédites. Reste ensuite à comparer ces informations-là avec des informations liées à la santé pour comprendre les maladies éventuelles.
Mais est-ce qu'on est vraiment très précis là au niveau... parce que quand on mesure le bruit, ça veut dire quoi? Vous regardez rue par rue ou est-ce que vous regardez plutôt au niveau du quartier? À quelle précision on arrive? Parce que l'idée, c'est d'avoir... une image de l'individu lui-même. Donc comment est-ce que vous ciblez vraiment l'individu lui-même et pas le quartier ou l'habitation?
Alors en Suisse, on est extrêmement bien équipé. On a en particulier l'Office fédéral de l'environnement qui a développé une base de données qui décrit l'environnement sonore sur la base d'enregistrements qui sont effectués le long du réseau routier, par exemple, le long des voies de chemin de fer, aux alentours des aéroports, pour constituer un cadastre du bruit. Et la précision de ces mesures est assez bonne. Au niveau géographique, on fournit une information pour chaque pixel de 10 mètres fois 10 mètres. Et, alors, il y a une erreur, effectivement, qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a aussi des mesures complémentaires qu'on peut aller faire précisément. Mais là, c'est vraiment pour mettre près, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller... placer des capteurs ou des personnes aussi dans leur effort participatif, comme on l'a fait récemment, qui vont aller dans certaines zones pour enregistrer l'information et la mettre à disposition de la communauté scientifique.
Et donc, professeur Guessous, vous, ce que vous faites, c'est comparer ces données un petit peu méta, disons, qui catégorisent l'environnement de la personne avec des données réelles de santé pour voir si ces facteurs comme le bruit ou d'autres facteurs en fait influencent cette santé, c'est juste?
C'est exactement ça, parce qu'au fond... le revenu, c'est pas le billet de banque qui vous garantit un état de santé meilleur. C'est ce que vous allez en faire ou c'est ce qui vous permet de faire. Et typiquement, le niveau socio-économique sera peut-être caractérisé par un lieu de résidence avec plus de pollution, plus de bruit. Et en fait, ce sont ces facteurs que nous mesurons avec Stéphane Yost et d'autres qui ont un impact sur votre santé. Et on est plus précis dans ce qu'on appelle la causalité entre votre niveau socio-économique et votre état de santé, parce qu'on mesure vraiment qu'est-ce qui va impacter votre santé. Les données santé, elles sont essentielles. Le canton Genève a eu l'intelligence depuis plusieurs années d'investir dans une étude populationnelle. On a bientôt 20 000 résidents genevois qui nous ont consacré du temps et du sang, et avec lesquels nous avons des informations sur l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, des états inflammatoires. La ville de Lausanne a également... une telle étude. Et ce que nous faisons, c'est que nous prenons le pouls des citoyens santé et nous les croisons avec les données environnementales.
On parle santé. Merci.
Pour quelques minutes encore, le professeur Idriss Guessous du service de médecine de premier recours des HUG et le géographe Stéphane Yost de l'EPFL nous éclairent donc sur les liens entre les niveaux socio-économiques et la santé depuis une bonne heure maintenant. Quelles sont, Mickaël Balavoine, les leçons que l'on peut en tirer?
Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant, parce que justement, de pouvoir mieux connaître le territoire et l'endroit où vivent les gens devrait permettre à aux politiques de mieux cibler leur politique de prévention. Alors, Idriss Guessous, comment est-ce qu'on peut organiser, grâce à ces données que vous trouvez, des meilleures politiques publiques?
Disons que la santé publique a toujours souffert d'être assez généraliste. Avec un message pour toute la population, il fallait être assez simple, entre guillemets, et puis les politiciens ne pouvaient pas prendre des décisions vraiment éclairées parce qu'il manquait l'information où agir, quand agir, quel type de message agir.
Pouvez juste donner par exemple un exemple de...
Bah, typiquement sur l'activité physique et l'alimentation. On a des campagnes qui sont cantonales ou peut-être nationales avec un même message pour toute la population. À l'heure du séquençage génétique, de la médecine de précision, la santé publique doit passer à un niveau plus précis, dire à qui je dois absolument m'adresser, qui n'a pas encore eu les leviers pour faire plus de sport, manger mieux, quel type, est-ce que ce sont des adultes, est-ce que ce sont des enfants, adapter mon langage. Et l'ambition, qui est modeste de Giraffe, avec Stéphane Yost, Giraffe c'est le groupe que nous avons monté, c'est de fournir de l'information précise aux décideurs politiques pour dire peut-être moins d'informations globales,
et plus d'actions ciblées sur les personnes qui vont en bénéficier.
C'est-à-dire que vous allez quand même garder un message global, mais appuyer sur certaines zones du territoire, Stéphanios, c'est ça l'objectif ?
Oui, tout à fait, parce qu'en complément de ces données sanitaires, les données dont on a parlé tout à l'heure, il existe un nombre incroyable de données qui sont disponibles sur le territoire de notre pays, qui sont mises à disposition par l'Office fédéral de la statistique et qui nous permettent de connaître le profil de la population. On va pouvoir reconnaître à des endroits précis, on a une statistique hectométrique en Suisse, donc on a toutes les zones habitées de 100 mètres x 100 mètres qui sont caractérisées par toute une série de données socio-économiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc on va pouvoir définir des profils pour reconnaître des catégories à risque et anticiper en fait certaines pathologies qui pourraient survenir, faire de la prévention afin d'éviter que ces gens ne tombent malades et que les maladies ne deviennent chroniques.
Peut-être juste pour finir, vous êtes très original dans ce type de recherche. En une minute, même pas, en 10 secondes, Idriss Guessous, est-ce que ce type de recherche devrait être multiplié et organisé différemment ?
Oui, elle doit être organisée au-delà en fait de volonté d'enthousiasme individuel que nous avons avec Stéphane Yost. Ça doit être vraiment repris, et c'est déjà repris par certains politiques au niveau suisse, qui s'entoure maintenant de PhD, de géographes, pour répondre à ces questions.
Merci.
Juste peut-être une question qui fâche, celle de Roger, pour conclure et répondre aux questions des auditeurs. L'immobilier va-t-il flamber selon les rues ?
Alors, la réponse est assez simple, en fait. Ça fait longtemps que l'immobilier est influencé par... Alors, ce qu'on met en évidence de manière différente aujourd'hui, mais tous les facteurs en question, vous vous demandez pourquoi le mètre carré aux Avanchais est moins cher qu'ici à Plainpalais, il suffit d'aller regarder l'environnement. Ça fait bien longtemps que c'est acquis, en fait.
Merci à vous deux, merci Stéphanie Yost, donc géographe à l'EPFL, et le professeur Idriss Guessous également, du service de médecine de premier recours. Merci également à vous, Michael Balavoine, rédacteur en chef de Planète Santé, avec nous chaque semaine en complicité pour réaliser ces différentes émissions. Sujet de la semaine prochaine, sujet qui devrait beaucoup vous plaire, puisque nous parlerons de désir et de sexualité pour la première fois dans cette émission, avec le sexologue Bianchi de Micheli. Dans quelques instants, les informations de 17h, le jeu du coffre Radio Lac, et d'ici là, voici Zayn et Sia, Dusk Till Dawn sur Radio Lac.